Bienvenue à Chasse à pêche dans la peau, édition radio. Je m'appelle Samuel Gendron et dans la prochaine demi-heure, on va jaser de chasse et pêche. Aujourd'hui, nous allons parler d'un animal qui mène une existence secrète, un animal qui est rarement observé, même par les chasseurs d'expérience. J'ai nommé le lynx du Canada. Un peu plus tard dans l'émission, on va même parler de la valeur marchande des fourrures au fil du temps et la santé de la population du lynx. On commence ça après la pause avec mon invité Sylvain Lessard. Oui, aujourd'hui, on parle avec Sylvain Lessard, biologiste de formation. Ensemble, on va en apprendre davantage sur cet animal mystique et plutôt rare qui est le lynx du Canada. Bonjour Sylvain, ça va bien?
Ça va bien, merci Samuel.
On va parler d'un animal ensemble que je crois que tu adores, que tu aimes beaucoup personnellement.
Oui, en effet, j'ai toujours eu une attirance pour les félins, hein, la famille des félidés. Je trouve que c'est des animaux qui sont un peu énigmatiques, pas aussi prévisibles, par exemple, que les chiens, les renards, les coyotes, les loups, les canidés. Donc, il y a toujours un peu de mystère entourant cet animal-là. Il est très discret, fait pas beaucoup de son. On ne sait jamais s'il est présent ou pas dans l'environnement. Donc, le côté est un peu mystique qu'il apporte versus le fait qu'il est très discret. Ben, toujours suscité de l'intérêt pour moi et toujours suscité un peu de questionnement, savoir comment il vivait, s'il était présent. Tu sais, un chat, on a tous souvent eu un chat à la maison. On regarde le comportement de notre chat, il nous observe, il fait pas beaucoup de bruit, il est souvent à l'affût. On dit souvent qu'un chat, c'est sournois, là, tu sais. Donc, on retrouve un peu le même comportement chez le lynx en pleine forêt. Fait que ça attise un peu les conversations et la curiosité face à cet animal-là. Et d'ailleurs, il est très difficile à étudier de par justement son comportement un peu discret.
Oui, c'est vrai. C'est un animal. Tu sais, même c'est rare qu'on en voit. C'est très rare. Les chasseurs en voient pratiquement pas. C'est très rare qu'il va s'éloigner des arbres, tu sais, qu'il va aller plus dans un champ ou quoi de même. C'est très très, je dirais pas peureux, mais très très préventif. Ça fait attention pour pas se faire voir.
Oui. Oui, c'est très prudent.
Oui, très prudent, c'est le mot que je cherchais. Oui, c'est ça.
Parce que on voit tellement peu ça que lorsqu'un chasseur, par exemple, ou un amant de la nature, un naturaliste, rencontre un lynx, c'est toujours un événement hors du commun. Un événement habituellement que les gens vont se souvenir longtemps, de par la rareté de l'événement. C'est rare qu'on voit un lynx, donc quand ça arrive, c'est un événement. Puis les gens m'en parlent souvent de leur expérience. Ils vont parler, oui, on veut un orignal, on veut un chevreuil, on veut un ours... Mais quand il s'agit d'un lynx, il y a toujours un intérêt un peu plus marqué, justement, de par la rareté des rencontres.
Oui. Dis-moi, ça mange quoi un lynx, hein, Sylvain?
Bon, c'est un carnivore, en partant. Il a une diète quand même, je te dirais, assez restrictive. C'est-à-dire que le lynx, si on parle du lynx du Canada, là, notre félin qui vit dans la forêt boréale, surtout au nord du fleuve Saint-Laurent, il y en a un petit peu de lynx du Canada dans le sud, mais très, très rare, parce que c'est un habitat qui est plus occupé par un autre félin présent au Québec qu'on appelle le lynx roux, le fameux bobcat. Mais le lynx du Canada, propre à la forêt boréale, est assez monospécifique au niveau de sa diète. C'est qu'il est très, très associé au lièvre d'Amérique. Donc, il est tellement associé que lorsque le lièvre est abondant, ben comme par hasard, on a plus de rencontres avec le lynx du Canada, on en voit plus souvent, les portées sont plus nombreuses. Et le lièvre, malheureusement, il est soumis à un cycle d'abondance. Il y a des années que le lièvre, la population crache complètement. Il n'y a pratiquement pas d'individus. Ils sont rares. On met des collets, puis on n'attrape pas de lièvre. On va à la chasse, puis on n'en voit pas. Donc, on est dans le bas du cycle d'abondance du lièvre. Bien, à ce moment-là, le lynx se reproduit très peu parce qu'il peut difficilement nourrir ses jeunes de par la rareté de ses proies. Et lui-même, même des individus adultes, vont soit s'exiler ailleurs, tentant de trouver de meilleures proies, de meilleures sources de nourriture, ou vont carrément périr, mourir de faim. jusqu'à temps que le cycle du lièvre recommence à nouveau. Donc, okay. Il y a une relation très, très étroite entre la proie, qui est le lièvre d'Amérique, et son prédateur, qui est le lynx du Canada. Il va se nourrir d'une perdrix ici et là, de petits mammifères, il va se nourrir même d'une grenouille. Très rarement, le lynx va s'accommoder de certains animaux qui sont déjà morts. On parle d'un gros gibier, une carcasse de chevreuil ou d'orignal, par exemple. Il va grignoter un peu là-dessus, mais ce n'est pas un animal qu'on considère qu'il aime particulièrement la charogne. Un lynx, ça l'aime tuer sa proie et la consommer sur le champ.
Comme un vrai félin, là, tu sais.
Comme un vrai félin, exactement.
Tu me parles?
Même, certaines études mentionnent même que lorsque le lièvre est abondant, le lynx est capable de consommer un lièvre par jour.
Je fais un rapport avec la Wananiche puis l'Éperlan au lac Saint-Jean, c'est la même affaire. La même
intéressant.
Affaire.
Ah oui. Hein.
Ouais. La Wananiche, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Puis la Wananiche, lorsqu'il y en a beaucoup, ben c'est parce que le bait qu'on dit là, en anglais, là, mais l'éperlan ouais. en tant que tel est en abondance. Donc de plus en plus au lac Saint-Jean, les biologistes vont faire une saine gestion de l'éperlan, qui, par le fait même, vient apporter une saine gestion de la Wananiche.
Donc, la relation entre le prédateur et la proie est très, très importante, tout comme le lynx et le lièvre. Ouais.
Dis-moi, est-ce que c'est habile dans la neige, là, un lynx?
Le lynx du Canada a des adaptations assez fantastiques concernant notre climat. C'est un chat un peu sur des échasses, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il est très haut sur pattes, lui permettant justement de se déplacer dans une neige relativement abondante. Mais sa plus grande adaptation, c'est au niveau de ses pieds. Les pieds du lynx du Canada, à l'automne, vont se garnir d'une fourrure très abondante, lui procurant de véritables pantoufles. Même, il y a un genre de poil qui va lui pousser entre les doigts, qui va lui faire écartiller ses orteils, lui permettant d'augmenter sa surface de contact, faisant de lui un chat avec de véritables raquettes pour empêcher justement qu'il cale trop dans une neige folle. Et ça lui permet d'être très très bien adapté à notre climat hivernal, puis lui permettant de pourchasser les lièvres sur une neige quand même relativement profonde.
Ouais, c'est ça. Ben là, je fais justement, notre lièvre, lui, tu sais, il tourne, il fait des 8, il court pas en ligne droite, là, donc ça prend un prédateur qui est agile sur la neige quand on parle de la chasse en hiver. Donc, c'est intéressant. Il est très,
oui,
très
puis agile. Même j'ajouterais à ça, Samuel, pour en faire un peu faire un peu de chemin là-dessus, c'est qu'en hiver, on n'oublie pas que souvent la femelle est accompagnée de ses jeunes et il va y avoir délibérément une stratégie de chasse entre les individus. Habituellement, la mère lynx, elle ouvre le chemin, la trail, comme on dit, et les jeunes suivent la mère en file indienne. Mais quand ils arrivent en situation de chasse, on s'aperçoit, par le plus pur des hasards, que les jeunes cessent de se suivre à la file indienne et se séparent pour faire plus une battue, genre une démarche. Puis à ce moment-là, il y a deux individus qui sont à l'affût. Et tout ce que c'est que les individus vont rabattre, ben, ils vont se faire capturer par les individus plus habiles à la chasse. Et ils vont partager ensemble comme ça le butin qu'ils vont avoir ramassé. Donc, il y a une cohésion au sein de la famille pour avoir plus de succès lors de la chasse.
C'est comme un peu l'effet d'une meute familiale encore là.
Oui, exactement. C'est véritablement une unité familiale qui s'associe ensemble. Puis comme ça, les jeunes apprennent à chasser par eux-mêmes. Et en même temps, ben ça permet à la famille de se nourrir là plus facilement.
Tantôt, on a parlé de chat sauvage ou bobcat ou bien lynx roux qui est un proche, très proche parent du lynx du Canada. Comment on peut les différencier? Je sais que tu as parlé que les lynx roux sont plus du côté sud du fleuve et le lynx du Canada plus du côté nord. Physiquement, j'en ai deux à côté de moi, un de chaque. Quelles sont les différences physiques?
Ben, les différences physiques, tout en partant, le lynx roux n'est pas aussi bien adapté que le lynx du Canada pour marcher dans la neige. Fait que ça explique un peu sa répartition beaucoup plus au sud qu'au nord. Donc, le lynx roux n'aura pas les gros pieds touffus comme de véritables raquettes pour marcher dans la neige et n'aura pas des pattes aussi longues. Comme on disait tantôt que le lynx du Canada, c'est comme un chat sur des échasses. Il y avait de très longs membres. Le lynx roux n'aura pas des pattes aussi longues. Donc, physiquement, en partant, c'est pas mal ça. Mais lorsqu'on se rapproche un peu, on s'aperçoit entre autres que le lynx roux n'a pas des touffes de poils noirs dans les oreilles aussi longues que le lynx du Canada. Et il y a une différence avec la queue. La queue du lynx roux est un petit peu plus longue, Puis comme je dis souvent aux jeunes, la queue du lynx du Canada, c'est comme si tu l'avais trempé dans un pot d'encre. Donc, le bout de la queue est noir au complet. Parce que la queue du lynx roux, elle n'est pas noire au complet. Il y a une petite tache noire sur le dessus, il y a quelques petites rayures, mais la tache noire n'est pas aussi bien définie sur la queue du lynx roux que sur la queue du lynx du Canada. Ça, principalement, visuellement, c'est pas mal les grandes différences. Mais grosso modo, le lynx roux, dépendamment de son lieu où on l'observe, il va y avoir des reflets beaucoup plus roux que le lynx du Canada, qui est beaucoup plus grisâtre. Et la grosse différence, c'est au niveau ventral. La peau du ventre du lynx roux va être mouchetée, tachetée, beaucoup plus de façon apparente que la fourrure du lynx du Canada, par exemple.
OK, ben merci beaucoup pour la description. Puis aussi, en frais de grosseur, j'imagine que j'ai en tête que le lynx du Canada est plus gros un peu. Là.
On a tout en tête que le lynx du Canada est plus gros. Mais cependant, il y a certains individus de lynx roux qui atteignent des tailles assez considérables. Je te donnerai à titre d'exemple, au niveau des proies, le lynx roux ne se gênera pas, par exemple, pour attaquer un jeune chevreuil, attaquer des proies beaucoup plus grosses, ce qu'on voit rarement chez le lynx du Canada. Donc, le lynx roux a une genre de plus grande variété de proies, okay. S'adapte plus facilement à son environnement. Et d'ailleurs, je te dirais, Samuel, certaines expériences qui ont été effectuées par le passé ou qu'on a mis dans le même habitat, la même parcelle de forêt, un lynx roux et un lynx du Canada. Et c'est le lynx roux, de par son adaptabilité et son agressivité, qui va dominer sur le lynx du Canada. Le lynx du Canada va quitter les lieux et va laisser la place au lynx roux.
Au retour de la pause, on va parler de trappe, piégeage, du plan de gestion et on va en apprendre un peu plus sur les fourrures et même des recettes. On est de retour de la pause avec Sylvain Lessard. Sylvain, maintenant, on va parler de la trappe, du piégeage le plus particulièrement, là, parce que c'est un animal que l'on peut attraper dans le cadre d'un plan de gestion, là.
Oui, absolument. Le lynx du Canada, le lynx roux sont considérés des animaux à fourrure au niveau de la réglementation. Donc, à partir, par exemple, de la fin d'octobre, là, le piégeur certifié, parce que ça prend un cours de formation, bien sûr, pour être piégeur, obtenir la lettre P sur notre carte du chasseur, une fois la formation effectuée, t'achètes ton permis de piégeage et il est possible de trapper avec des pièges appropriés, bien sûr, du lynx du Canada. Il y a un plan de gestion, il y a un nombre particulier, restreint, de lynx que l'on peut attraper dans la province de Québec, dépendamment où on installe nos pièges. Donc, il faut vérifier de façon locale. Tu sais, genre, le quota de lynx va être différent sur la Côte-Nord, par exemple, que genre dans la région de Québec, à titre d'exemple. Donc, le piégeur est bien au fait de cette petite réglementation-là. Mais avec un piège certifié qui est autorisé par la loi, il est possible de mettre des installations et d'attraper du lynx, en effet. Une très belle fourrure.
Moi, c'est intéressant. Je regardais ça, puis les dates, grosso modo, ça varie d'une année à l'autre, là. Mais c'est plus ou moins de la mi-octobre à la mi-mars, là, les périodes.
Oui, absolument.
La fourrure, tu me parles de la fourrure. Oui, c'est une belle fourrure. Peux-tu me faire un peu l'histoire de la fourrure? Parce que c'est plus rare qu'avant, quand même, les trappeurs, je crois. J'y vois peut-être deux raisons. La valeur des fourrures qui a changé, puis aussi la population vieillissante. Là, puis c'est peut-être des valeurs ou des habitudes qui se perdent de faire le trappage.
Oui, puis il y a d'autres raisons. Pour répondre à ta première question, pour en faire un peu un historique, sache qu'à un moment donné, entre 1920 et 1950 et 1960, c'était la mode des manteaux de fourrure à poils longs. Donc, à ce moment-là, les lynx ont été visés par les piégeurs parce que le marché était quand même assez positif, tu sais, puis dynamique. Donc, les manteaux de fourrure et les articles de fourrure à poil long étaient à la mode. À partir des années 60, le poil long a été un petit peu moins à la mode. Et de par les pressions exercées par les piégeurs, ben le lynx était aussi beaucoup plus rare. Ce qui fait que la mode a changé un peu. On est arrivé plus vers les castors, les visons, les remusqués, etc. Pour arriver dans les années 70-80, où là, il y a eu un genre de petit recrudescence pour des fourrures de qualité et le lynx en faisait partie. Et c'est à ce moment-là que les fourrures ont valu un record astronomique de valeur sur le marché. Je me souviens très bien, dans les années 80, on pouvait aisément vendre une peau de lynx à l'encan lors de la mise en marché pour une valeur supérieure à 500 $. Donc, à ce moment-là, c'était astronomique comme somme d'argent à cette époque-là. Donc, tous les piégeurs étaient intéressés à aller piéger le lynx de par l'incroyable valeur qu'il avait. Éventuellement, le marché n'a pas tenu le coup, évidemment. Le marché s'est écroulé. Le prix des fourrures en général s'est écroulé, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout la même valeur là, pour la fourrure d'un lynx du Canada, qui se situe plus autour d'une centaine de dollars. Mais la mode en tant que telle, tu disais, la population est vieillissante, il y a moins de piégeurs. Oui, c'est vrai. Les populations de lynx vont bien. Les populations sont revenues à un niveau comme on voyait dans les années 60 et 70. Donc là-dessus, ça va bien. Mais je te dirais également qu'il y a une grosse conscience environnementale et écologiste, des mouvements de protection contre les animaux qui se sont acharnés un peu sur l'activité du piégeage, trouvant cette activité-là un peu rétrograde, un peu barbare. Et ces pressions-là, ces mouvements-là ont fait en sorte que plus beaucoup de compagnies qui veulent maintenant acheter de la fourrure pour s'afficher comme étant des consommateurs de fourrure. Donc, de par les mouvements internationaux, le marché de la fourrure a diminué grandement par des mouvements un peu sociaux, ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui.
Bonne explication, c'est tout à fait logique. On parle de respect quand même de l'animal collecté, zéro gaspillage, écologie. Dis-moi, est-ce qu'il y a des recettes qui existent de lynx? J'ai jamais personnellement essayé.
Tu me fais sourire, Samuel, parce que c'est, je te dirais, dans le monde du piégeage, c'est peut-être le secret le mieux gardé. Il est rare qu'on entend parler de consommer un prédateur. On ne mange pas de coyote, on ne mange pas de loup, on ne mange pas de vison, de martre, de pékin. Par contre, le lynx fait exception. Parce que le lynx n'est pas charognard, comme on l'expliquait dans la première partie de l'émission. Et la viande du lynx, c'est un athlète. Hein? Imagine-toi un athlète olympique. Ça fait que ça a des grandes fibres musculaires, très, très fines, dépourvues de gras. Et la viande est très claire. Ça me fait beaucoup penser, par exemple, à un lapin, par exemple, ou à la poitrine d'un poulet. Donc, une fois que l'animal est écorché pour la mise en valeur de sa fourrure, le piégeur est capable de récolter les griffes pour faire de l'artisanat, entre autres. Il garde évidemment la boîte crânienne, ce qui fait un excellent souvenir lorsqu'elle est traitée et décharnée. Et la fourrure, évidemment, se fait sécher le soin auquel le piégeur est très bien habilité à faire. Mais au niveau de la viande, les cuisses, les deux longes ainsi que les épaules, on débite ce gibier-là et on est capable de se faire des recettes absolument délicieuses. Je te dirais, là, Samuel, qu'au niveau des animaux à fourrure, c'est peut-être un des meilleurs à consommer, honnêtement.
OK, quand même, oui. On y va low and slow. As-tu un truc, un conseil à donner à quelqu'un qui se lance à l'aventure?
Pas plus tard que l'année dernière, en collaboration avec la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec et la revue Sentier Chasse-Pêche, on a fait un projet de mise en valeur du lynx du Canada. Donc, j'ai eu la chance d'en attraper deux. Et avec la viande, on a décliné certaines recettes. La recette qui a retenu le plus d'attention et qui a été déclarée bonne première dans toutes les recettes qu'on a faites, c'est un genre de lynx sauce à la moutarde. Un peu comme on voit le lapin à sauce à la moutarde, mais on a pris du lynx à la place. Donc, on a fait revenir nos morceaux de lynx dans un poêlon avec certains aromates, genre carottes, oignons et tout. On a déglacé ça au vin blanc et on a mis notre préparation de crème, moutarde et assaisonnement. Puis, on a laissé mijoter ça une vingtaine de minutes sur la cuisinière. Et avec des pâtes alimentaires, on a servi ça à un panel qui ne s'attendait pas à déguster ça.
Je comprends.
On avait également du rhum musqué, on avait du castor à consommer, on avait de l'ours. Et le lynx est arrivé un bon premier, et ça à l'unanimité, Samuel. Wow. Donc et même j'en ai gardé, et c'est une recette qui va être publiée prochainement dans le magazine Sentier pour que les gens puissent être capables de la reproduire.
Merci beaucoup, Sylvain. Le temps passe à une vitesse incroyable, je dirais peut-être même le temps s'arrête parce qu'on apprend beaucoup. J'aime beaucoup discuter avec toi de la biologie des animaux. En terminant, aurais-tu une demande spéciale là, pour agrémenter la fin de notre émission?
Au niveau musical?
Ouais, niveau musical, n'importe quoi, ce que tu aimes, ce que t'as le goût qui te ferait plaisir.
Ah ben moi j'aime bien le groupe 21 Pilots, je trouve qu'ils ont des tunes positives, rythmées, qui sont agréables à l'oreille, peu importe notre âge ou peu importe nos atomes avec le monde musical. Puis je trouve que c'est, ils ont même des tunes environnementales qui viennent nous chercher un peu, donc ça serait mon choix pour aujourd'hui.
Parfait. Donc, on y va avec ça. Encore une fois, merci beaucoup. Puis je pense qu'on va s'en reparler parce que c'est passionnant. Je te remercie beaucoup.
Plaisir, Samuel. N'importe quand.
D'avoir été à l'écoute, chers amis. J'espère que vous en avez appris un peu plus au sujet du lynx du Canada. On a parlé aujourd'hui de ses caractéristiques physiques. Il faut dire qu'en présence de Sylvain, on apprend beaucoup de choses. Il est tellement ferré dans la faune. C'est passionnant. Je trouve que l'émission a passé un peu trop vite, mais en même temps, ça, c'est un bon signe. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur différentes plateformes, c'est-à-dire Facebook, YouTube, TikTok, et bien sûr, Spotify pour écouter les émissions au moment où vous en avez envie. Et d'ici là, je vous dis, vous êtes toujours les bienvenus chez nous et à la semaine prochaine!